même s'il y a bien des choses que nous pourrions dire sur ce grand thème, chercher l'Éternel, j'ai eu à cœur, c'était le sous-titre de cette série de messages, de partager avec vous les bienfaits de la présence de Dieu dans nos vies. Et que nous puissions réaliser que lorsque le Seigneur nous donne un impératif, certes, un impératif, on ne va pas se raconter de salade, on ne va pas se mentir, un impératif coûteux, parce que oui, chercher Dieu, ça coûte, oui, chercher Dieu, ça prend du temps, oui, chercher Dieu, ça va demander que je priorise certaines choses dans ma vie, dans mon agenda, dans mon emploi du temps, mais je sais, parce que la parole me le montre, que chaque fois que je vais céder à cet appel de Dieu qui m'attire dans sa présence, cherche ma présence, cherchez l'Éternel, cherchez ma face, je sais que c'est parce qu'il veut me bénir. Et je sais qu'il y a des facettes différentes de bénédiction derrière ce grand impératif, chercher l'Éternel. Et ce que je me propose de faire avec vous pendant ces trois soirs, c'est de voir différents aspects de bénédiction. Et allez, je vous le dis comme ça, en quelque sorte, je voudrais me donner envie et vous donner envie de chercher Dieu bien plus. Et le but, c'est pas de vous dire « Dieu n'est pas présent dans vos vies ». Non, le but, c'est que vous, comme moi, par sa grâce, on ait vraiment ce feu, cet éveil, ce renouveau de cœur pour chercher Dieu, pour chercher sa présence, et puis qu'on puisse arriver à connaître sa présence dans une dimension qu'on n'a encore jamais connue. Et c'est ce dont on a besoin dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises. J'en ai besoin dans mon ministère. J'échappe pas à la règle. Je suis désespérément dépendant de la présence de Dieu. Alors, pour parler des bienfaits de la présence de Dieu, je vous propose, il n'y aura pas forcément d'ordre chronologique, on va essayer d'aborder un maximum de bienfaits en trois jours. J'ai choisi un premier texte dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, à partir du verset 1er. C'est un texte très intéressant, puisque dans ce simple texte, on va trouver déjà quatre bienfaits de la présence de Dieu. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de Amatsia, son père. Ozias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua, notez bien, les termes sont très importants, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux, dans les vallées, dans les plaines, des laboureurs, des vignerons, dans les montagnes, au Carmel, parce qu'il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jehiel et le commissaire Maaseïa, placés sous les ordres Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, 307 500 hommes, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placé sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Amen. Le grand mot d'ordre de ce passage, c'est surtout le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ici, on va parler de bienfaits spirituels. C'est un thème fondamental dans le livre des Chroniques, c'est, je crois, un thème fondamental de la vie du chrétien, un élément indispensable de la vie du chrétien, de l'Église, du ministère pastoral, de n'importe quel service, de n'importe quelle vie chrétienne, s'appliquer à rechercher Dieu. Osias, malheureusement pas toute sa vie, parce que si vous lisez ce qui se passe à partir du verset 16, ça devient une catastrophe sans nom. Et pourquoi est-ce que ça devient une catastrophe sans nom? Et parce qu'il perd tout, simplement le jour où il arrête de chercher Dieu. Mais dans cette partie, la plus grande partie de sa vie, il a eu cette intelligence de chercher Dieu. C'est Dieu qui l'a cherché. C'est bête à dire, c'est rien à dire. Mais combien c'est humain de chercher tout le reste. Je vais naturellement chercher des réponses. Je vais naturellement chercher une guérison. Je vais naturellement chercher un boulot. Je vais naturellement chercher un exaucement. Je vais chercher une bénédiction. Je vais chercher des solutions à mes problèmes. Je vais chercher des réponses à mes questions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Osias, il a pas tout cherché sauf Dieu. Il a cherché Dieu sauf tout. Il n'a pas cherché ses bienfaits. Il n'a pas cherché ses bénédictions. Il n'a pas cherché à avoir ce qui l'arrangeait de Dieu. Osias s'est intéressé à Dieu, à ce que Dieu est, et certainement pas à ce que Dieu fait ou donne. Il s'est intéressé à Dieu, c'est-à-dire à sa personne, à sa présence. Il s'est appliqué à le chercher, on cherche, nous cherchons à le connaître. Et c'est ça, ça doit être l'objectif de ma vie, ça doit être l'essentiel de ma vie. De m'intéresser à lui, de le chercher lui, pour qui il est, pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait ou donne. Le prophète Amos promet, c'est le grand titre de cette série de messages, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Mais la vie, cette zoé, cette qualité de vie de Dieu, elle se trouve dans ce qu'il est, pas dans ce qu'il fait. Demain, Dieu me guérit, est-ce que c'est légitime? Ah oui, c'est légitime. Bien sûr que Dieu peut tout encore aujourd'hui, évidemment. Mais demain, je peux expérimenter une grande bénédiction, un grand exaucement, un grand miracle, une guérison, que Dieu pourvoie à mes besoins, à tout ce que vous voulez, mettez tout ce que vous voulez. La vie de Dieu dont j'ai besoin, elle n'est pas dans ce qu'il fait. Demain, je peux être guéri et intérieurement être le plus misérable des chrétiens. La vie de Dieu n'est pas dans ce qu'il fait ou donne. La vie de Dieu, elle est dans ce qu'il est. Et Osias s'est intéressé à Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il pouvait lui apporter. Et il a commencé à chercher Dieu, il s'est appliqué à chercher Dieu, il a cherché Dieu de tout son cœur. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est le grand impératif biblique, c'est l'une des preuves d'intelligence spirituelle. Le psaume 14, le psaume 53 disent « L'Éternel du haut des cieux parcourt du regard la terre, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a un homme intelligent qui cherche Dieu ». Chercher Dieu, c'est la chose la plus intelligente que l'on puisse faire. Osias, dans cette plus grande partie de sa vie, a été l'homme le plus intelligent qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Il s'était appliqué à chercher Dieu. J'aime beaucoup, j'insiste avant qu'on décortique ensemble les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie d'Osias, j'insiste sur « il s'est appliqué ». Ça veut dire que c'est devenu la grande affaire de sa vie. De vivre quelque chose de puissant, de grand, d'intime, d'authentique, de réel, de palpable dans la présence de Dieu. Il s'est appliqué. Ça veut dire que c'est devenu la priorité des priorités. C'est devenu la grande affaire de sa vie. Chercher Dieu. Je sais qu'il y a des impératifs. Quand il faut que j'aille au boulot, je ne vais pas dire à mon patron, « Je suis désolé, patron, je ne suis pas là aujourd'hui parce que j'étais en train de chercher Dieu. » Il y a des impératifs. Vous n'allez pas laisser vos enfants à la sortie de l'école sur le trottoir parce que vous cherchez Dieu. Mais dans cette aspiration de cœur, ça devient la priorité des priorités. Ce n'est pas quand ça m'arrange. Ce n'est pas seulement quand je ne vais pas bien. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas à Dieu d'être aménagé dans les recoins de mon cœur et de ma vie quand ça m'arrange, qu'il soit dans telle partie de ma vie, mais pas dans celle-là. C'est devenu la grande affaire de ma vie, chercher Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, quand on commence à rentrer dans ce genre de dimension, je vous le dis, on n'est pas mieux que les autres. Le Seigneur ne nous aime pas plus, ce n'est pas possible. Mais on commence à rentrer dans une vraie dynamique intérieure où on a compris ce que ça voulait dire, chercher Dieu. Et on est en train de montrer à Dieu quelle est la valeur que lui, il a à nos yeux. Et c'est au moyen de ce qu'on est prêt à investir de notre temps, de notre énergie, de nos finances, de nos forces, de nos vies, ce qu'on est prêt à investir de nous-mêmes dans cette recherche, c'est à ça qu'on voit quelle est la véritable valeur qu'on accorde au royaume de Dieu. Et là, vous avez bien compris, je ne vous demande pas si vous avez lu votre Bible ce matin, je vous l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas. Alors, évidemment, quand on est appliqué à rechercher Dieu, et il faut se remettre au pied de Dieu, il faut revenir à l'essentiel, il faut le chercher de tout notre cœur. Et à ce moment-là, appliqué à rechercher Dieu, Dieu va commencer à agir dans différents domaines. Et les bienfaits de la présence de Dieu vont commencer réellement à arriver. Quels sont ces bienfaits de la présence de Dieu dans la vie d'Ozias? Ils sont sous nos yeux. Quatre bienfaits de la présence de Dieu dans nos vies. La première chose dans laquelle Ozias a été efficace, c'est la conquête. Du moment où il a cherché Dieu, réellement, il a commencé à être efficace à l'extérieur, dans la conquête. Il se mit, verset 6, il se mit en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et il construisit des villes, etc., etc. Les Philistins, on le sait, c'est un type de l'ennemi. Eh bien, moi, je vois dans ce texte que Ozias a été conquérant et qu'il a été efficace dans la conquête. Parce que c'est Dieu, c'est sa présence. Une fois que j'ai vraiment la présence de Dieu, je n'ai pas besoin de me bagarrer avec mes gosses. Je ne me bagarre pas avec mes voisins. Il y a des tas de domaines dans lesquels je ne me bagarre pas. C'est la présence de Dieu qui fait tomber les murs. Et ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est les murs, les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod. Il y a des murs. Vous n'avez pas l'impression autour de vous qu'il y a un sacré paquet de murs, spirituellement parlant? Vous avez beau dire, vous avez beau faire, vous avez beau parler, vous avez beau avertir, vous avez beau tout ce que vous voulez, de toute façon, parlez à un mur. Quand Josué, avec le peuple, a fait le tour de Jéricho, vous connaissez ce plan qui, de la part de Dieu, était humainement, volontairement, complètement stupide. Il fallait que la gloire revienne à Dieu et pas au peuple. C'est une évidence. Mais on comprend bien que c'est pas le fait que Josué et le peuple aient fait le tour de la ville qui a fait tomber les murs. D'accord? On sait bien qu'il y a autre chose. Il y a une réalité, il y a des réalités spirituelles. Et quelles sont ces réalités spirituelles? Qu'est-ce qu'il y a dans tout Josué 5, Josué 6, tous les grands principes de victoire qui permettent de voir des murs et des murailles s'effondrer, des forteresses tomber, alors qu'elles sont normalement imprenables? Eh bien, l'arche, le symbole de la présence de Dieu, la présence de Dieu, était parfaitement à sa place au milieu du cortège. Et qu'est-ce qui a fait tomber les murailles de Jéricho? Ce n'était pas le plan il était nul. Ce qui a fait tomber les murailles de Jéricho, c'est la présence de Dieu. Ce qui a rendu Gédéon vainqueur sur les Madianites, ce n'est pas ses cruches et ses flambeaux, c'est la présence de Dieu. Souvenez-vous comment triomphaient de nos géants. Le dernier point, le sixième point, on s'était quitté avec ça. Ce qui a permis à David de renverser Goliath, c'est pas sa fronde, c'est pas sa technique, c'est pas sa stratégie, c'est pas son habileté, c'est la présence de Dieu qui lui a permis de... Et on pourrait multiplier ainsi les exemples. Moi, je crois, frères et sœurs, en 2018, je crois que l'évangile est un évangile conquérant. Je crois que nos vies chrétiennes doivent être conquérantes, pas seulement pour obtenir plus et vivre plus de choses de Dieu, ce qui est déjà très bien, mais conquérantes aussi parmi, pardonnez-moi, je mets entre guillemets, hein, l'ennemi, ils ne sont pas nos ennemis, mais parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait le boulot? Qu'est-ce qui rend efficace? Qu'est-ce qui fait que l'évangile peut se propager, gagner du terrain, être efficace? Qu'est-ce qui fait que mon témoignage est efficace? Ben, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas mes mots. Ce n'est pas l'élocution. Ce n'est pas mon habileté. Il y a des gens qui disent « Oh, vous savez, moi, je parle très peu de Jésus, je ne sais pas parler. » Mais c'est génial que tu ne saches pas parler. Parce que comme ça, tu ne compteras pas sur tes propres forces. Voyez, frères et sœurs, bien souvent, j'ai l'impression qu'on est là dans des statu quo. On essaye de... Il y a des attaques ennemies, on va en parler aussi tout à l'heure. On subit les coups, on s'efforce de les contenir, on s'efforce de maintenir difficilement, péniblement nos acquis. Mais la réalité de beaucoup de vies chrétiennes, de beaucoup d'églises, c'est qu'on perd cette dimension offensive, conquérante, on n'arrive plus à gagner de terrain, on essaye simplement de protéger nos acquis en espérant qu'il n'y aura pas trop de casse. Mais je vois que par la présence de Dieu, Ozias a été efficace et les murs de Jabné, les murs d'Asdod, les murs de Gath, les murs, tout ce qui humainement parlant est imprenable, tout ça est tombé. Je vois aussi son efficacité dans le verset 2, puisqu'il nous est dit que Ozias a rebâti Éloth et il l'a fait rentrer sous la puissance, sous le règne du royaume de Juda. Éloth, c'était aussi une ville extérieure et il a été conquérir une ville à l'extérieur et il l'a ramené sous la puissance de Juda. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas 50 explications possibles. Les difficultés de l'Église aujourd'hui à percer dans ce monde, les difficultés de l'Église, les faibles résultats de l'Église en général dans sa conquête du monde pour se propager, pour s'étendre, pour s'implanter, sont simplement liées à un déficit de la présence de Dieu. C'est aussi simple que ça. À cause de la présence de Dieu, Ozias a été efficace dans sa conquête. Le deuxième point, un autre bienfait de la présence de Dieu dans nos vies, c'est que ce texte me montre que Ozias a aussi été efficace à l'intérieur. La présence de Dieu lui a permis d'être beaucoup plus efficace, pas seulement dans les affaires extérieures, mais dans les affaires intérieures. Il a renforcé les défenses, ça c'est le verset 9 qui nous le montre. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Et ça concerne les défenses, le travail qui se passe à l'intérieur. Je crois, frères et sœurs, que dans la présence de Dieu, sérieusement, nous pouvons nous construire, et nous pouvons nous fortifier dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est mon refuge, c'est ma haute retraite, c'est mon bouclier, c'est ma tour forte, c'est ma haute retraite, c'est ma force, c'est ma protection. La présence de Dieu me permet de me construire intérieurement et de me fortifier. Alors, il faut aussi être clair sur ce point, les attaques extérieures sont inévitables. Les attaques extérieures sont inévitables. Les soucis, les problématiques, les difficultés à l'extérieur, quelle que soit leur forme, sont inévitables. Et là, il faut bien comprendre que la présence de Dieu, ce n'est pas un gris-gris. D'accord ? Nous ne sommes pas superstitieux. Il y a des gens, dès qu'ils ont peur de quoi ou qu'est-ce, combien j'ai entendu de gens qui disaient « Oh Seigneur, on se place sous le sang de Jésus pour que tu nous protèges. » Quoi ? Qui c'est quoi « je me place sous le sang de Jésus » ? C'est quoi le sang de Jésus ? C'est un gris-gris ? C'est superstitieux ? C'est... Non, je ne me place pas sous le sang de Jésus. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. La présence de Dieu, ce n'est pas un gris-gris. La présence de Dieu, ce n'est pas la garantie qu'il ne m'arrivera rien à l'extérieur. Mais la présence de Dieu va être efficace, nécessaire et suffisante pour me garder à l'intérieur. Elle va me garder de la chute. La présence de Dieu va me garder du naufrage. La présence de Dieu va me garder d'être effondré intérieurement. Elle va me garder d'être emporté. La présence de Dieu, ce n'est pas la garantie que je ne passerai pas par l'adversité. La présence de Dieu, c'est ma force face à l'adversité. La présence de Dieu, c'est ma force dans les adversités. Non pas pour que je ne sois jamais attaqué ou qu'il ne m'arrive jamais rien, non, mais pour que je sois gardé intérieurement dans la vie de mon âme. Le psaume 27, dans lequel David dit « L'Éternel me protégera au jour du malheur ». Il n'a pas dit « il me protégera du jour du malheur ». Non, « il me protégera au jour du malheur ». C'est justement parce qu'il y aura des jours difficiles que j'ai besoin d'avoir la présence de Dieu dans une mesure plus grande et plus conséquente. « Il me protégera au jour du malheur ». Oui, parce qu'il y en a. Dans le psaume 23, David dit encore « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et il n'a pas dit, parce que tu es avec moi, je ne passerai pas par la vallée. Et si, tu passeras par la vallée. C'est justement parce que tu sais que tu vas devoir passer par des vallées que tu vas avoir besoin de la présence de Dieu dans une mesure nouvelle. Des jours de malheur, il y en a. Des jours de sombre vallée, il y en a, il y en a eu, et il y en aura encore. Mais il me protégera, je ne crains aucun mal, parce que la présence de Dieu, elle me porte, elle m'élève au-dessus des circonstances, elle m'élève au-dessus de tout ce que je dois traverser. Et aujourd'hui, l'intérieur, ce n'est pas une ville, l'intérieur, ce n'est pas un bâtiment, l'intérieur, ce n'est pas un lieu géographique. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans notre condition de vie aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, l'intérieur, c'est un lieu spirituel. Mon être intérieur, c'est là que l'Esprit de Dieu doit résider de plus en plus. C'est là que sa présence doit être de plus en plus réelle, qu'elle doit être de plus en plus palpable. C'est là que ça va se jouer, c'est dans l'être intérieur, c'est là que l'Esprit de Dieu doit résider de plus en plus, qu'il doit être de plus en plus présent, que sa présence doit être de plus en plus forte et de plus en plus palpable. Ozias a construit à l'intérieur. Et il a fortifié. Je ne jette la pierre à personne. J'ai fait cette grave erreur aussi en son temps. Combien de chrétiens, malheureusement, et je l'ai fait, et quand je ne l'ai pas fait, je l'ai regretté, et quand je l'ai fait, j'ai été béni. Combien de chrétiens, pardon, ne construisent rien avec Dieu. Ne construisent rien. La présence de Dieu, la vie avec Dieu, ça se construit. Et ça se construit intérieurement. Mon intimité avec Dieu, je la construis. Si je prends une autre image, là j'ai pris l'image d'un lieu intérieur, de cette ville, de ses défenses, mais j'aurais pu prendre l'image d'un jardin. Un jardin, ça se cultive. Un jardin, ça s'entretient. Mon intimité avec Dieu, il ne suffit pas de planter, il faut entretenir. Parfois, il faut couper là où il faut couper. Ozias, il a construit et il a fortifié. Dieu est bon. Il n'a rien contre ma maison, il n'a rien contre ma carrière, il n'a rien contre mes vacances, il n'a rien. Mais on parle franchement, hein, je vous dis, on ne va pas se raconter de salade, on va parler honnête. On n'a pas des stratégies pour construire nos carrières dans ce monde ? Bien sûr qu'on a des stratégies de carrière. Et est-ce que parce que tu es chrétien, c'est un péché d'avoir une stratégie de carrière ? Non, ce n'est pas un péché. Mais tu sais avoir une stratégie pour ce que tu veux. une stratégie pour ta carrière. Je peux avoir une stratégie pour ma maison. Je peux avoir une stratégie pour mes vacances. Et quand il faut chercher un lieu de vacances, c'est bizarre. Je ne vois pas le temps passer, mes heures ne comptent pas. Quand il me faut un prêt pour... Ah, je sais comparer tout ce qu'il faut comparer auprès des banques pour avoir le meilleur taux. Et quand il me faut une assurance pour couvrir mon prêt, pour acheter ma maison, pour que je sois plus heureux, parce que mon train de travail me permet de payer une maison, etc. Quand j'ai une stratégie de carrière, j'ai une stratégie aussi pour trouver le meilleur emprunt et la meilleure assurance. Et on a des stratégies pour tout aujourd'hui. Et ben c'est logique. Dieu ne nous en veut pas. Il ne sait pas un péché. On ne construit pas au hasard. Est-ce que je peux dire, poser cette question? Je me la pose à moi aussi. Elle est où ma stratégie de construction avec Dieu? Ozias, il a eu une stratégie pour construire. Et ensuite, ce qu'il a construit, il l'a fortifié. Et frères et sœurs, quand on ne se construit pas intérieurement, quand on ne construit pas notre vie avec Dieu, c'est là qu'on est faible. Ce n'est pas les circonstances qui nous rendent faibles. Ce ne sont pas les attaques extérieures qui nous rendent faibles. Ce ne sont pas les attaques dans ma famille ou dans mon corps qui m'ont rendu faible. Ce ne sont pas les attaques de l'ennemi. C'est le manque de construction intérieure qui fait que je suis vulnérable. Et parce qu'on n'a pas construit intérieurement, on peut si vite se laisser, au lieu d'être conquérant, on peut se laisser conquérir. C'est-à-dire qu'on peut très vite se laisser envahir par un compromis, par un péché. On se laisse envahir par toutes sortes d'inquiétudes, par toutes sortes de peurs, par de la torpeur, par de la léthargie, par des angoisses. Pardon, il n'y a rien de méchant, vous me connaissez. J'ai jamais vu autant de chrétiens aussi angoissés qu'en 2018. J'ai l'impression qu'on va battre un record d'angoisse dans nos églises aujourd'hui. Comment est-ce que... Comment ça se fait? La vie avec Dieu, ça se construit. Et ce n'est pas l'extérieur, ce ne sont pas les attaques de l'extérieur qui m'ont rendu vulnérable. C'est le manque de construction intérieure qui m'a rendu vulnérable et qui m'a plongé dans des angoisses, dans des tristesses, dans des rancunes, dans de l'amertume, dans des torpeurs, dans tout ce que vous voulez. Si je ne suis pas construit intérieurement, je m'effondrerai forcément, pour un oui, pour un non. Construire et fortifier, Ozias a construit de façon stratégique. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur les angles. Il a construit de façon intelligente et stratégique et il a fortifié. Eh bien moi, je bénis Dieu de ce qu'il me permet par sa présence de construire ma vie intérieure, de renforcer mes défenses. Je voudrais dire aussi à beaucoup de frères et sœurs, parce que ça devient une énorme lacune dans les églises en général, que le baptême dans le Saint-Esprit, avec son signe initial, le parler en langue, c'est un excellent moyen de construction intérieure, personnelle. Tellement de chrétiens ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. 2 jours, 2 mois, 2 ans après, plus rien. Parce qu'on est là, et puis c'est vrai que quand on parle en langue, Paul le dit, notre intelligence demeure stérile, on a l'impression de perdre notre temps, on se demande à quoi ça sert, mais Paul dit, lorsque tu parles en langue, celui qui parle en langue s'édifie. Littéralement, Paul dit, il se construit lui-même. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, c'est-à-dire il se construit lui-même, et même l'image dans la pensée générale de Paul à ce moment-là, c'est que lorsque... Dans le parler en langue, vous savez que dans la vie chrétienne, c'est inévitable, on se prend des coups. Votre vie, c'est comme une forteresse, d'accord? Il y a des murailles. Et quand il y a des attaques, ça peut être soit par un péché personnel, on a chuté, on a fauté, on a fait quelque chose de mal, ou quelqu'un nous a dit du mal, ou les circonstances, ceci, cela. Et c'est comme si ça vous met des coups dans vos murailles. Et vous avez des morceaux de pierre, vous avez des morceaux de murailles qui s'écroulent, vous avez des brèches. Et Paul dit, celui qui parle en langue, il se construit littéralement même, il se reconstruit lui-même. Il y a des choses qu'on t'a dit, qu'on t'a fait, qui t'ont fait tellement de mal, qui ont été comme un coup de catapulte dans tes murailles spirituelles, et t'as des brèches, t'as des trous béants dans tes murailles, et là, t'es devant Dieu, tu parles en langue, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, mais le Seigneur, il sait ce que tu fais là quand tu parles en langue, il est en train de te reconstruire. Et même si j'aime tout le monde et que je suis prêt à visiter tout le monde, bah, il y a des fois des choses, le Seigneur vous reconstruirait sans le pasteur. Parce que c'est la puissance du parler en langue. Je me construis, je me reconstruis moi-même intérieurement. Ozias, parce qu'il a été intelligent pour chercher Dieu, pour s'appliquer à chercher Dieu, il a été efficace à l'extérieur, il a été efficace à l'intérieur. Et même, je dirais, dans une certaine mesure, parce que les coups sont inévitables, mais intérieurement, il était invulnérable. Parce que c'est pas lui qui craignait les autres, c'est les autres qui le craignaient. Ça vaut le coup la présence de Dieu, non? Troisièmement, un autre bienfait de la présence de Dieu dans la vie d'Ozias, ce sont les ressources. Où est-ce que je vois ça? Je vois ça dans le verset 10. Ozias bâtit des tours dans le désert. Et il creusa beaucoup de citernes. Il a changé le paysage du désert. Il a creusé des citernes. Et quand on creuse des citernes, quand on prend le temps de creuser, de chercher, on creuse dans la vie avec Dieu. Quand on creuse, on trouve de l'eau. Les ressources, elles ne sont pas à la surface, la nature me l'enseigne. Les ressources ne sont pas à la surface. Les nappes phréatiques ou n'importe quoi d'autre, les ressources sur cette planète, elles sont enfouies. Et Dieu a fait exprès, c'est enfoui dans le sol. Et il faut aller creuser. Et des fois on dit, oh, je suis dans le désert, je suis dans un désert personnel, désert spirituel, désert familial, désert corporel, désert professionnel, désert relationnel, désert affectif. On a toutes sortes de déserts. Ben dans le désert, au lieu de se plaindre ou de tourner en rond, on peut, c'est une solution. Ozias, lui, s'est dit, moi je vais creuser. Et il a trouvé de l'eau dans le désert. Là où on creuse, il y a des ressources, mais ah, évidemment, creuser, ça demande beaucoup d'efforts. Creuser, ça va prendre du temps. Il faut que je parvienne à ces profondeurs de vie avec Dieu. Ozias, il a fait un choix très clair. Il a décidé qu'il n'allait pas tourner en rond dans le désert. Ozias n'est pas mort dans le désert, il a creusé et il a trouvé des ressources. Et vous savez aussi bien que moi, c'est la nature qui me l'enseigne, que le désert, c'est contagieux. Le désert, naturellement, il gagne du terrain. Les déserts s'agrandissent naturellement, c'est la nature qui me l'enseigne. Le désert, c'est contagieux et il faut stopper. Combien de frères et sœurs ont besoin de stopper cette influence du désert dans leur cœur, dans leur vie, dans leur couple, dans leur famille, mais de retrouver ces dimensions dans lesquelles ils vont commencer à creuser pour aller chercher les ressources là où elles sont, c'est-à-dire dans les profondeurs de Dieu, de sa parole, de sa communion, de son intimité. Il a changé le paysage du désert. C'est fou ça. Il a transformé un lieu de mort en un lieu de vie. Parce que le désert, par définition, c'est un lieu de mort. Les gens qui connaissent la présence de Dieu font la différence dans les lieux arides, dans les terres desséchées, dans les endroits qui sentent la mort. Ils font jaillir la vie. Le psaume 84, j'aime beaucoup ce psaume, c'est aussi un psaume des fils de Corée. Le psaume 84 est un psaume qui, de manière imagée, métaphorique, dans le langage de l'Ancien Testament, c'est un psaume qui exalte la présence de Dieu et qui met en valeur la supériorité, la suffisance, la prééminence de la présence de Dieu. Et il y a deux bienfaits extraordinaires au niveau des ressources aussi dans le psaume 84 qui nous montre que les lieux de mort peuvent être changés en lieux de vie. Il nous est dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des larmes, Baca, les larmes. Lorsqu'ils traversent, ceux qui ont goûté réellement, ceux qui savent ce que c'est que la présence de Dieu, lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils la changent en un lieu plein de sources. Et ce qui devrait me tuer au contraire, va être transformé. Ils trouvent dans leur cœur des directions, ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. La présence de Dieu, c'est ma lumière. Elle me guide, elle me conduit. Encore une fois, un frère, une sœur, un pasteur peut te conseiller, évidemment, et il le faut. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Oui, c'est bien, on peut. Mais quand on a la présence de Dieu, il y a des choses, excusez-moi, qui deviennent évidentes. De la même façon que la nuée conduisait le peuple, c'était le symbole de la présence de Dieu, conduisait le peuple la journée, la colonne de feu conduisait le peuple la nuit. Il y a des choses qui sont évidentes. Ceux qui connaissent la présence de Dieu, dit le psaume 84, lorsqu'ils passent dans la vallée de Baca, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est évident. Je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire, je sais ce que je dois dire, je sais ce que je ne dois pas dire, je sais ce que je dois accepter, je sais ce que je ne dois pas accepter, je sais où mettre mes marques, je sais où mettre mes limites. Le Seigneur me dirige dans tout ça. Et ils ont aussi, en plus des chemins tout tracés, cette présence de Dieu qui les éclaire, qui les guide, qui les dirige, qui nous sort du désert et qui nous permet, avant de sortir du désert, de transformer le lieu de mort en un lieu de vie. Ozias a transformé le paysage. Il a transformé en un lieu de mort, en un lieu de vie. Il a trouvé dans la présence de Dieu des ressources exceptionnelles. Allez, dernier point. La présence de Dieu a équipé Ozias. La présence de Dieu, c'est notre équipement. Évidemment, je l'ai déjà dit, je le redis encore, ma force ne vient pas de moi. Un chrétien n'est jamais fort par lui-même, il est fort de la présence de Dieu. Un chrétien n'est pas fort de son expérience. David n'était pas fort de ses expériences passées, il était fort de la présence de Dieu. Ce ne sont ni mes techniques, ce ne sont pas mes méthodes, ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas mon originalité, ce n'est pas mon inventivité, ce ne sont pas mes trucs, ce ne sont pas mes mots, c'est la présence de Dieu. Je connais des pasteurs, j'aime tout le monde, mais des fois j'ai peur. Je connais des pasteurs, ils ne savent plus quoi faire pour être originaux ou inventifs dans leur église. Alors c'est sûr que l'esprit de Talmaï, faire toujours comme on l'a toujours fait, j'en veux pas. Mais de là à devenir un uluberlu et à chercher des trucs innovants pour essayer d'amener des gens, le secret, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu m'équipe. La présence de Dieu, elle me qualifie. La présence de Dieu, elle me rend capable. Elle me donne la vraie intelligence. Elle me donne le génie. Et j'aime énormément ce verset 14 et surtout le verset 15. Parce que non seulement Ozias a réussi à procurer à une armée immense un équipement complet, mais là où ça m'interpelle, c'est le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Attention, il n'y a pas de piège, niveau CE2. Une grosse machine qui lance des grosses pierres, ça s'appelle une catapulte. Oui, une catapulte, mais c'est extrêmement intéressant parce que pour l'époque, c'était une sacrée invention. Si vous allez sur Wikipédia, tapez catapulte, origine de la catapulte, Wikipédia va vous dire que la catapulte a été inventée au 4e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs en Sicile. Eh bien, la Bible me dit que la catapulte a été inventée au 8e siècle par Ozias. 400 ans avant, Wikipédia est encore à la ramasse. Et la catapulte, c'est l'ingénieur d'Ozias qui l'a inventé. Parce que ce qui va être vraiment... Vous voyez, on n'a pas besoin de chercher à être originaux, on n'a pas besoin de chercher des trucs, des méthodes, ou comment est-ce qu'on va faire ceci ou cela. Non, la vraie inventivité, le vrai génie, la vraie intelligence, la vraie idée, la façon dont je dois faire ça ou ça ou ça... C'est la présence de Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui me le donne. C'est lui qui m'inspire. C'est Dieu qui me donne l'intelligence. Daniel avait 16 ans, 17 ans, il était déporté, il n'avait rien pour lui, il était chez Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar parlait avec Daniel et ses amis, il les trouvait 10 fois plus intelligents que les intelligents de son royaume. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne les plans, c'est Dieu qui donne les directives, mais c'est aussi Dieu qui va donner les moyens. C'est Dieu, c'est sa présence qui est à l'origine de toute chose. C'est lui qui est la finalité de toute chose, mais c'est aussi lui qui est le moyen. Et c'est sa présence qui va m'équiper et qui va me donner les moyens, les idées, qui va me rendre fort. Tout découle simplement de la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que tu allais être plus efficace dans ta famille ou je ne sais pas dans quel domaine? Il y a peut-être des domaines à l'extérieur, tu as un sentiment de... Tu as besoin de conquête et tu vois des murs, tu en as marre de voir des murs et toujours des murs. La présence de Dieu a rendu Ozias efficace dans sa conquête. Peut-être que tu es, au lieu d'être conquérant, que tu es toujours conquis, tu es toujours renversé, tu es toujours effondré d'une façon ou d'une autre, tu as peur de tout et de rien, tu n'as pas de défense, tu n'es pas construit intérieurement. Au lieu de courir partout, au lieu d'avoir peur et de t'agiter pour un oui, pour un non, la présence de Dieu va permettre de construire ta vie intérieure et t'apporter les vraies défenses. La présence de Dieu va, comme pour Ozias, te permettre de trouver des ressources que tu n'avais jamais trouvées avant. La présence de Dieu, elle va t'équiper et te donner vraiment l'idée, l'inventivité, le génie, l'adresse, l'habileté. Elle va te donner ce que tu as besoin en termes d'équipement pour être efficace. Et tout ça, Ozias ne l'a jamais cherché. Ça fait partie du tout le reste. Parce que Ozias n'a pas cherché à être conquérant. Ozias n'a pas cherché à avoir une défense efficace. Il n'a pas cherché de ressources. Il n'a pas cherché d'équipement. Il a cherché Dieu. Et Dieu l'a rendu efficace. Une fois qu'il a trouvé Dieu, la présence de Dieu lui a donné tout ça. C'est ce qui découle. C'est un lien de cause à effet. C'est ce qui a découlé naturellement de la présence de Dieu dans la vie d'Ozias. Et j'insiste, Ozias n'a jamais cherché tout ça. Mais, parce qu'il a cherché Dieu, il a eu tout le reste. Et dans tout le reste, il y a eu ça. Et malheureusement, vous lirez chez vous, je ne veux pas terminer sur une note triste, mais il faut quand même considérer que la fin d'Ozias a été tragique. Et un jour, malheureusement, quasiment avant la fin de sa vie, avant la fin de la course, juste avant de passer la ligne d'arrivée, vous relisez, on s'aperçoit que Ozias a tout perdu. Comment est-ce qu'il a pu tout perdre? Ozias, je pèse mes mots, comme Asa, comme d'autres rois, était un homme de réveil. Je pèse mes mots, un homme de réveil. Comment un homme de réveil a pu, quelques années avant la fin de sa vie, tout perdre? C'est simple. Ozias a tout perdu, pas parce qu'un jour il a perdu son armée, pas parce qu'il était arrivé à son 10e quinquennat, 52 ans, il était dans le 11e quinquennat, pas parce qu'il avait fait 10 quinquennats, pas parce que les ennemis étaient devenus trop grands, pas parce que les ennemis étaient devenus trop nombreux, c'est pas parce que l'église était devenue trop difficile, c'est pas parce que le pasteur était devenu trop mou ou trop bouché ou qu'il comprend plus rien, c'était pas à cause des frères, des sœurs, c'était pas à cause de la nuit qui s'épaissit dans le monde, c'était pas à cause de sa famille, c'était pas à cause des ennemis, c'était pas parce que la nuit était trop épaisse, c'était pas parce que... Le jour où il a arrêté de chercher Dieu, c'est là qu'il a tout perdu. Vous voyez comment on peut résumer une vie. Et j'aime beaucoup cette version, je vous la livre, c'est une autre version. Ce que nous avons lu ensemble, c'est « Pendant le temps où il a cherché Dieu, dans le temps où il rechercha l'Éternel, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Une autre version dit « Aussi longtemps qu'il a cherché Dieu, aussi longtemps que... » Mais le jour où il s'est arrêté de chercher Dieu, il a tout perdu. Seigneur, fais-nous grâce. Je vous le dis, frères et sœurs, je vous dis de tout mon cœur. j'ai apporté ce message avec aucun sentiment de supériorité. Je demande à Dieu sa grâce. Je dis, Seigneur, fais de moi un homme intelligent et que je te cherche et que je fasse de toi la priorité des priorités, la grande affaire de ma vie. Garde-moi de chercher à avoir de l'efficacité dans le cœur des chrétiens de Manosque. Garde-moi de chercher une stratégie ou une méthode d'évangélisation. Garde-moi, Seigneur, de chercher à avoir du résultat ou d'être conquérant dans cette ville. Garde-moi tout ça. Garde-moi de chercher à avoir un nom, à avoir je ne sais pas quoi. Garde-moi, Seigneur, de chercher à être inventif ou je ne sais pas. Seigneur, garde-moi tout ça. C'est ma prière. Fais de moi l'homme intelligent qui fait de toi la grande affaire de sa vie et qui va s'appliquer à te chercher jusqu'à ce que ta présence me donne tout le reste. Amen.